Français.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler.
En compagnie du camarade Jean-Claude Guessot. Ah, Jean-Claude, souvenir. Il y a un temps que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître. Alors que Pierre Mendès France était aux affaires et qu'il proclamait « gouverner, c'est choisir ».
Oui.
En ces temps-là, le monde était simple. Les Trente Glorieuses adossées au plan Marshall permettaient encore au gouvernement impérial français de croire que l'État pouvait tout. Depuis, après quelques jospinades et une crise induite par le passage du capitalisme industriel au capitalisme financier, la France est ballottée au gré des tempêtes dans la mer des sarcasmes. Certes, déjà en 1937, puis en 1983, la gauche démocrate et encore sociale pratiquait la pause, comme d'autres se rangent derrière la loi du marché. Et François II, le bien-aimé, de prévenir. Le changement, ce sera la pause maintenant. Car pour gouverner, il faut un Parlement docile et l'accord de Bruxelles, si ce n'est de Berlin. Il faut donc à notre nouveau monarque républicain une majorité au Parlement. Bon, il l'a déjà au Sénat, reste l'Assemblée nationale. Les jeux seront faits d'ici un mois. Quelle serait la meilleure majorité pour le président ? Pour la gauche ? Pour la France ? Qu'en dit notre belette Jean-Claude Guessot ? Guessot, lui qui connaît si bien les arcades du pouvoir, mais avant tout, quelles sont les perspectives à venir concernant la future chambre ? À ce sujet, je serais pas étonné que le renard ait son mot à dire.
Mais il était court, mais voilà. Moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a donné. On a beaucoup donné. Pendant 5 longues années Sarkozy. 5 ans à se dresser sur ses talonnettes en faisant de la France un pays de fous, de timbrés, de névrosés. Tout le monde contre tout le monde et que le pire l'emporte. Là, j'ai besoin de calme. Et je me sens hyper calme. Il a failli nous rendre fous. C'est fini. Quoique, vigilance camarade. Quand j'entends cette droite hargneuse qui a une conception patrimoniale du pouvoir, et chez laquelle toute victoire de la gauche est vécue comme une usurpation, elles sont pourtant rares, les grandes dates de la gauche. 1936, 1981, 2012. Alors, ce que j'en dis, c'est encore un petit effort jusqu'au 17 juin. Voilà ce que je dis des législatives.
Ouais. Parce que... Manquer encore un
avant,
peu...
Avant que de faire des spéculations sur les gouvernements.
Félicitations.
Et les pourquoi.
Félicitations sur les dates de la gauche, mais une petite remarque.
J'ai fait...
La gauche, elle ne naît pas en 36. C'est plus profond que ça en France. Et d'ailleurs, si on parle de la France et de... quelque part, du modèle ou de l'exception française, intégrer la Révolution française.
Laquelle ?
1793.
La première, disons 93, si vous voulez.
Ah, voilà. Donc tu gommes la Révolution bourgeoise. C'est non, que la Révolution prolétaire, c'est des produits.
Je ne gomme pas la
c'est
Révolution.
C'est d'une classe ouvrière qui n'existait pas.
Je te connais, tu es un nanar, alors donc j'ai voulu te...
Oui, justement, dire. Albert Soboul ne m'a jamais beaucoup plu.
Mais moi, justement, Albert Soboul.
Je préfère Guérin, moi.
Oui, mais d'accord.
Mais je préfère les sans-culottes. Ouais.
D'ailleurs, je te signale...
Et les bras nus.
Ah ben oui. Bon, un jour, tu m'invites, on fait un truc sur la Révolution française. D'ailleurs, bon. Non. Ne gommez pas ce non, qui...
Je suis
que les montagnards...
Je suis resté pour les moins de 80 ans.
C'est déjà à ce moment-là que la gauche commence à se dessiner. La gauche, dans sa pluralité, avec ses révolutionnaires, mais aussi ses gens plus mesurés.
Ces coupeurs de tête.
Il va falloir
que les têtes tombent.
Non, mais les coupeurs de tête, si vous parlez de Robespierre avec le pelletier de Saint-Fargeau, c'était opposé à la peine de mort. Ça, évidemment, tout le monde l'a oublié.
1793,
sauf
c'est
qu'après,
pas que la terreur,
comme c'est Savarin, le gars des biscuits, là, ou je ne sais pas quoi, qui avait dans
c'est le suffrage universel, c'est les assemblées départementales.
Oui, non, mais après.
C'est l'abolition de l'esclavage.
Ils s'en sont servis, absolument.
C'est pas que...
Eh bien, on peut parler de l'abolition de l'esclavage aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour aussi. Et alors, non, la gauche, ça fait partie, y compris par rapport au système anglo-saxon. La France, elle a cette particularité, un peu d'ailleurs que les pays du sud, de l'Italie, l'Espagne,
on a la commune, nous, quand même.
Et puis, nous avons eu 48 et nous avons eu 48. Tu parlais de l'abolition de l'esclavage, c'est pour ça que je fais référence à 48.
Mais il avait été aboli en 1793, rétabli par
Napoléon. Par Napoléon.
Enfin, par les Thermidoriens.
Ils avaient déjà un Hollande de service, c'était Lamartine qui croyait que la révolution allait se faire en plantant des arbres de la liberté.
Ah oui, mais
on appelait ça l'illusion romantique.
Oui, mais c'était aussi. Il n'a pas fait que ça, Lamartine. Hein.
Non, il a fait aussi des poèmes, il valait mieux qu'il reste à faire des poèmes.
Oui, et bon, il y a des choses qui restent. Mais qui est toujours un peu d'utopie, heureusement d'ailleurs. Je trouve que dans ces temps modernes, on a trop tendance à briser les rêves.
Les utopies et les réalités de demain.
Tu vois, et quelquefois le discours populiste a une chance de prendre parce que justement il propose des rêves et de l'utopie. Et nous, il faut que
Tu parles de Marine Le Pen ?
Je ne parle pas de Marine Le Pen. Elle n'a pas un discours populiste, elle a un discours extrémiste. Et d'ailleurs, moi je ne l'appelle pas Marine, je l'appelle Le Pen, pour que les choses soient claires. Pour moi, le Front National, parce qu'il... Lui, la direction, en tant que parti politique...
Ouais, et on t'appelle bien Jean-Claude, on t'appelle pas Joseph, nous.
Parce qu'il porte justement le rejet de l'autre. Derrière, il porte pas simplement le repli, il porte la haine et dont la violence.
Il y a les législatives qui arrivent.
Ouais, c'est ça, le
point. Et là, j'aimerais qu'on prenne quelques exemples concrets... Dans le département, parce qu'on arrive au moment du dépôt des candidatures qui doivent être faites d'ici, 4 jours. Alors, je vais te donner une série de choses. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est vraiment la bonne idée, Roumégas, candidat unique de la gauche, ou présenté comme tel sur la première circonscription ? Est-ce que Anne-Yvonne Le Dain, candidate sur la deuxième, c'est une bonne idée ? Est-ce que Fanny Dombrocoste sur la troisième, à moins d'un concours de circonstances, est-ce que ce serait une bonne idée ? Bon, Mesquida sur la septième, ah, effectivement, lui, j'allais dire, il risque rien. Assaf sur la huitième, Vignal sur la neuvième, mais dans quelle galère va-t-il se mettre ?
Attends, tu ne continues pas, je vais pas faire une distribution,
non, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème d'avoir fait des nominations, des pré-nominations avant ?
Oui. Non, qu'il y ait un problème, mais on est dans une... Tu viens de me parler de l'Hérault. Hein. On est dans une situation où, qu'on le veuille ou non, les séquelles de la crise entre la direction du Parti Socialiste et les socialistes locaux ne sont pas totalement effacées. Il faut regarder les choses en face. Il se trouve qu'il y a eu une gestion nationale de la répartition des sièges, après sûrement discussion entre toutes les tendances. Bon, je pourrais parler des heures là-dessus, parce que je suis malheureux comme les pierres de voir que, quelquefois, l'esprit de tendance l'emporte sur l'esprit de...
À Béziers, je crois qu'il y a 5 candidats de gauche.
Je ne sais pas, je vais te dire sur Béziers.
Qui se présente contre Elie Abou.
Je vais te dire sur Béziers.
La gauche avait déjà peu de chance, mais alors.
Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le film ?
Je vais te dire sur Béziers, mais laisse-moi achever. Donc, il y a eu ces choix qui ont été faits. Et après, bon, les choix ont été faits, y compris après l'accord du PS, de Martine Aubry avec les Verts et tout ça. Bon. On peut penser tout ce qu'on veut. Maintenant, moi, je vais vous dire le fond du problème. Il est double. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Sinon, on peut se raconter tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Même l'augmentation de 25% des allocations pour la rentrée scolaire, tout ça, on ne l'aura pas. Donc, il faut une majorité de gauche pour réussir... au moins enclencher le changement.
Alors justement, j'aimerais bien alors, qu'on rentre dans le détail sur cette affaire-là.
Ah non, non, mais attends, tu veux que je réponde et puis tu me coupes la parole. Donc, pour enclencher le changement, et je suis de ceux qui pensent qu'il faut que politiquement, le PS, qui va être la part essentielle de la nouvelle majorité, si c'est pas la droite qui nous fout dans la cohabitation, le PS, il faut qu'il ait en appui à ses côtés et avec les exigences suffisantes des élus, y compris du front de gauche.
Des empêcheurs de tourner en rond.
Qui soient justement pas des empêcheurs de tourner en rond, mais des gens susceptibles d'aider à la réussite.
D'aider à la réussite ou des ingérables, et je pense là non plus tant au front de gauche, mais par exemple pour les Verts. Pour le président de la République, pour
moi, je parle pour le front de gauche.
Pour le président de la République, François Hollande.
Pour les communistes sortants.
Est-ce que l'idéal ne serait pas pour François Hollande d'avoir une majorité absolue de députés PS ?
C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'ils vont dire.
Qu'est-ce que tu penses de la position de Mélenchon ? Mélenchon, il dit le front de gauche s'engage à ne jamais voter la censure du gouvernement en place. Et de l'autre côté, je n'exclus pas de jouer un rôle, ça c'est une traduction de Jean-François, mais ne s'exclut pas de jouer un rôle d'aiguillon. C'est comme ça qu'il définit en quelque sorte sa position.
C'est un peu du soutien sans participation.
Non, disons, on ne votera jamais la censure, mais de l'autre côté...
Et ça a conduit en 1937
mais de l'autre côté,
à la pause.
Nous allons jouer un rôle de proposition et d'aiguillon. Voilà.
Oui, mais là dans le trou...
Enfin, l'aiguillon, il n'a pas dit ce mot, mais enfin...
Oui, mais le mot aiguillon, tout ça ne me déplaît pas. Je ne suis pas... dès lors que le choix est fait de jouer la carte de la réussite du changement, et donc de l'opposition aux revanchards, c'est-à-dire à la droite, hein, parce que c'est un peu ce que tu dis hein, dans la formule. Tout ça, ça me va bien. Tout ça, ça me va. Moi, je suis de ceux qui pensent que, la gauche, elle est une, mais elle est diverse. Parce qu'à un moment donné...
D'où la gauche plurielle en 97.
Oui, mais n'utilisons pas le mot la gauche plurielle, parce que ça fait sortir des boutons à plein de personnes. Mais moi, je dis, elle est diverse. Voilà, bon. Alors, est-ce qu'il faut que dans cette diversité... Il y a dont les Verts, ils vont aller au gouvernement, ils veulent y aller. Ils veulent même sûrement des postes importants. Est-ce que
Cécile Duflot a même déjà démissionné de son poste de responsable des Verts.
Tout ça, c'est malheureusement... Je veux dire, ça leur fait pas du tort, parce que c'est malheureusement un peu l'image de la politique... politicienne. Ça leur fait pas du tort, mais ça fait du tort quelque part. À la citoyenneté, je vous le dis. Moi, j'attends de François Hollande que sur ces questions aussi, qu'il s'agisse du cumul, qu'il s'agisse de tout ça, eh bien, les choses, elles se passent. Et qu'elles se fassent, comme il l'a dit. Moi, que les engagements soient tenus dans
Tu le crois vraiment, ça
veut... Eh bien, je le souhaite. Hein. Et je souhaite que y compris les élus du Front de Gauche soient parmi ceux qui diront... Vous aviez promis ça et ça, il faut le faire dans le domaine social. Vous aviez promis ça et ça dans le domaine économique. Vous aviez promis ça et ça dans la résistance.
Il n'a pas promis grand-chose, Marc.
Hein. C'est à ce que je parlais d'aiguillon.
Oui, eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Je suis d'accord. Je suis de cet avis. Donc, il faut non seulement qu'il y ait une majorité de gauche, que le PS ait l'ambition d'avoir tous les postes, ça correspond, j'allais presque dire, à sa nature hégémonique, comme nous, quand nous étions les communistes, quand nous étions les plus forts à gauche, nous aussi, nous avions une petite tendance à l'hégémonie à gauche. Ça ne veut pas dire qu'on avait raison. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui...
C'était facile, parce qu'à l'époque, vous étiez dans l'opposition.
Oui, on était, et on était dans l'opposition, okay. Effectivement. Mais dans
c'est facile de distribuer oui,
dans,
des postes.
Oui, mais dans les élections locales et territoriales, des fois, nous étions oui. dans la majorité.
Effectivement.
Et donc, regardez tout. On peut aller voir la région parisienne. Les... Bon, bref. Et aujourd'hui, le PS, qui est le premier parti, se comporte quelquefois avec cette outrance ou cette audace ou hégémonique.
Comme quoi c'est difficile de partager. Hein.
Et comme quoi c'est difficile. Le communisme, mais celui auquel je crois, tu sais, le truc des chrétiens, là, le partage, eh bien, c'est pas facile. Hein. Et alors, mais ceci étant, la question des questions aujourd'hui, c'est surtout, envoyer une majorité de gauche décidée à réussir le changement. Et alors, tu me parlais de...
Ça veut dire que donc tu crois que François Hollande est de gauche, quoi.
Non seulement je le crois, mais j'en suis...
Les socialistes sont de gauche.
Je vais vous dire une chose. Bon, ben, peut-être vous le savez. Tu as parlé de mon carnet d'adresse, hein, et ainsi de suite. Mais François Hollande fait partie des gens avec qui j'ai de très, très, très bonnes relations. Voilà. Quand je dis de très, très bonnes relations... Parce que non seulement je l'ai connu avant 97, mais y compris dans la séquence 97-2002, y compris dans ce qui a suivi, dans les rapports entre hommes politiques...
C'est avec lui que tu avais négocié la gauche plurielle ?
Non, je n'ai pas négocié. Moi, je suis un facilitateur. Voilà.
Voilà, oui, bon, on peut le dire comme ça. Donc, c'est avec lui. C'est avec lui.
Donc, ça, c'est très important de voir cette dimension-là pour les élections législatives. Parce que là aussi, ce n'est pas gagné d'avance. Quand les gens regardent le passé et ils disent, du moment que tu as eu l'élection du président de la République, après, tu as le...
C'est automatique.
La vague.
Il n'y a rien d'automatique.
Et or.
Ah, c'est sûr, quand les gens ont voté pour le candidat, ça le fait. Quand ils ont voté contre l'autre, c'est effectivement, ça risque de ne pas le faire.
Voilà.
Et j'ai un doute, moi, que les Français aient voté pour Hollande.
Et donc,
J'ai moins de doute qu'ils ont voté contre Sarko. Du coup, effectivement, pour les législatives.
On va pas revenir.
Non, mais du coup, pour les législatives, c'est effectivement, ça peut poser problème.
Tu vas dans mon sens. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que le résultat a été serré. Et donc. Le résultat a été serré parce que, sur des bases qui tiennent à la fois à la situation, la crise, etc., à une espèce d'oubli de ce que Sarkozy, y compris, avait fait, parce qu'on te dit c'est le rejet de Sarkozy. Mais le rejet de Sarkozy, enfin, rappelez-vous, les enquêtes d'opinion sur l'image de Sarkozy. Il aurait dû y avoir 70% pour Hollande contre Sarkozy. Or, ça a été 52-48. Bon, donc c'est plus complexe que ça, l'état d'esprit.
Plus législative, c'est 577 élections.
Et voilà. Et alors
et ça fait 577 situations différentes.
Et alors et si je prends mon pays, c'est la France, c'est aussi mon pays, c'est le sud de France. Hein. En même temps, je fais la publicité pour sud de France.
Hein. Dans le foulé.
Et tu as vu, d'ailleurs, hier, Montpellier a gagné. Et ils avaient sud de France sur leur maillot. Là, il y avait la région, Languedoc-Roussillon.
À la 94e minute, quand même, il était temps.
Eh bien, c'était beau. Ça veut dire qu'il ne faut jamais désespérer. Et c'est vrai.
L'analogie est intéressante. Comme quoi, c'était un score serré. Et il faut se battre jusqu'au dernier moment pour emporter le morceau.
Voilà. Et donc ça va être serré parce que dans notre région, l'idée quand même. Bon, vous avez vu les scores du Front National sur la région.
Denis à Perpignan, pas
mal. L'Hérault. Sur tout ce qui est la plaine et la côte.
À l'exception de Montpellier.
Heureusement qu'il y a eu Montpellier.
Et heureusement qu'on a reçu Marine Le Pen dans la radio, puisque c'est grâce, peut-être, à cette émission qu'elle a fait que 12% sur Montpellier. Ah, si toutes les radios avaient fait pareil,
elle aurait fait peut-être, si tu n'avais pas reçu, que 10%. Hein. Alors, non, n'essayez pas de te piler là.
Non, tu es un homme de débat. Tu es un homme de débat.
Allez. Et d'ailleurs, j'avais essayé, tu m'avais demandé de voir que, y compris Mélenchon, oui. Vienne débattre.
Oui.
Ça, j'ai essayé. Bon, ça n'a pas réussi. Parce que. Bon,
il n'est pas le petit peuple, lui.
C'est... Si, 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 mais c'est. Bon, il avait, tu vois, un emploi du temps trop chargé. Et alors, et donc, on est quand même dans une région où les votes extrêmes, et c'est vrai en particulier sur cette plaine littorale, dans les Hauts-Cantons, si tu veux, ça a mieux voté. Montpellier, les Hauts-Cantons font que l'Hérault reste à gauche, plus que Bédarieux, ben, tu vois, les Hauts-Cantons. Que l'Hérault reste à gauche. Donc, il faut que tout le monde soit conscient de ça, y compris au Parti Socialiste. Tu vois, il ne faut pas faire comme on a fait en 2001, où parce qu'on avait gagné Paris et Lyon, c'était la victoire de la gauche était gagnée en province. On avait perdu dans presque toutes les villes. Les ministres sortants s'étaient fait prendre petite pâtée.
Peut-être que des combats internes passés ont été préjudiciables. Avec les changements de municipalité à 7, à Béziers.
Oui. Oui, mais les combats internes passés ont été...
Parce que, quand même, quelque part, bon, les gens, ils sont... ils votent souvent en fonction aussi de ce que la vie locale leur offre.
Oui, mais les combats internes passés, quand même, ce qui est intéressant à Montpellier, c'est que si tu prends les combats internes au PS...
Mais c'est pas tellement
non, oui, mais combat je sais bien que tu... Oui, mais moi, c'est parce que tu parles des combats que je te parle de ça. Tu penses bien que je vais venir sur mon terrain. Hein, je vais profiter de ta question. Tu prends les combats internes au PS sur Montpellier, et je crois que malheureusement, ils durent encore. Je parle du PS. Hein. Il y a un score qui est formidable. Et même, il y a un score pour Mélenchon qui est très, très intéressant, en particulier centre-ville. Donc, il faut réfléchir. Quelles sont les couches qui... tu vois, je crois que c'est aussi, quelque part, une expression à la fois d'un petit ras-le-bol sur les divergences et les conflits internes, mais aussi une certaine expression. Et dans une catégorie de la population qui n'est pas obligatoirement celle qui a pu porter ce genre d'arguments, mais je pense à la radicalité, une catégorie de la population qui a envie de porter la radicalité. C'est ça qu'on vit à Montpellier. Non, mais attention, ça c'est intéressant pour l'avenir. Ça. Et je veux dire, mais moi je demande à ce que le PS, le PC, les Front de gauche, les Verts, les radicaux de gauche, y compris, se mettent autour d'une table et réfléchissent. Pour demain, dans les villes, tu parlais de Sète, de Béziers, de
Agde.
Agde, pour voir qu'est-ce qu'on fait, où on va, avec l'idée qu'on peut, si on se met d'accord, si on est unis plutôt que divisés et ennemis, on peut marquer des points. Parce que si ce n'est pas nous qui les marquons, eh bien les résultats, même dans l'ordre, dans l'ordre, c'était Ségolène avait fait plus de voix au deuxième tour
que Hollande.
Hollande, c'est exact, oui.
Donc méfions-nous. Ne regardons pas ça comme nous maintenant. C'est pas parce que nous avons la région, c'est pas parce que nous avons les principales villes ou que nous avons gagné dans certaines grandes villes comme Perpignan ou ainsi de suite au point de vue du second tour, mais globalement, attention. Alors, donc voilà quelle est ma réaction sur ce type de situation et tout faire. Et alors, tu me parlais de Béziers. Honnêtement, moi je suis pour que la proposition justement du Front de gauche, dans les endroits où il y a un risque que la gauche ne soit pas au second tour. C'est le cas dans la
circonscription
de Béziers.
C'est le cas aussi de la circonscription de Agde, la Nouvelle, enfin, le découpage.
Dans
Agde, etc.
Dans ces cas-là, naturellement, et localement, eh bien que les formations politiques se mettent autour d'une table pour dire, on présente...
Là, c'est pour une urgence, hein, parce que d'ici 4 jours, il faut que les candidatures soient déposées. Quoi.
Oui, oui, ça y est, c'est aujourd'hui que ça commence.
C'est aujourd'hui que ça commence. Donc,
c'est en ce sens que les législatives, c'était le jeu. C'est un jeu où la distribution des cartes est quelque chose d'important.
Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et vite pour décider qui, je dis bien qui, à gauche, a le plus de possibilités, le plus de chances d'être présent au second tour et, quand c'est possible, la capacité de battre le gars de droite sortant. Honnêtement, sauf si les socialistes décident que c'est quelqu'un d'autre à Béziers, pour l'instant, ils ont pris la décision de comment ça s'appelle, de Madame Roque.
Ouais.
Ok. Je crois que c'est elle qui est le plus capable, non seulement d'être présente, mais si vous voulez, 70% si c'est elle d'être présent, de chance d'être présent, dans ma tête, hein, présent au deuxième tour, et 30% de chance de l'emporter, de battre à bout, étant donné que c'est Hollande qui a gagné. Voilà.
On tous un chèque, ce qui est.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.